Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 18h à Tombouctou, la même heure ici, à la Maison de la Presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, le sommaire. 80 milliards de francs CFA ont été détournés du denier public de 2021 à 2024. La révélation a été faite par le procureur général près la Cour suprême. Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur cette affaire, a-t-il déclaré. C'est parti depuis ce lundi pour la 9e édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou. Selon les organisateurs, toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des festivaliers. Les états généraux de la santé ont démarré ce mardi à Bamako. Durant 3 jours, les acteurs du secteur vont faire l'état des lieux du domaine et faire des réformes adaptées aux besoins actuels. Voilà pour les grandes lignes de l'actualité qui vous seront détaillées dans un instant par Lala Diara Touré, Serundao est à la technique. Le procureur près la Cour suprême fait cas d'un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA de 2021 à 2024. Mamoudou Timbo l'a annoncé ce week-end lors d'une interview diffusée sur la télévision nationale. C'était dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption. Selon le procureur, une quarantaine de personnes sont impliquées, dont 11 anciens ministres. L'ouverture d'un procès est annoncée incessamment. Adama Amadou Haïdara nous en dit plus.
Selon le procureur général près de la Cour suprême, Mamoudou Timbo, il y a au moins 80 milliards de préjudices subis par l'État de 2021 à nos jours. Ces détournements concernent une dizaine de dossiers portant entre autres sur la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux. D'après les propos du procureur, il s'agit également d'atteintes aux biens publics, de corruption et de blanchiment de capitaux. Des cas de favoritisme, de prise illégale d'intérêts et complicité active et passive sont aussi cités dans cette affaire. Concernant les auteurs et co-auteurs de ces malversations relevées, le procureur Timbo mentionne qu'au moins 40 personnes sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices. Dans sa déclaration, le procureur a aussi annoncé l'ouverture prochaine d'un procès au bout duquel les inculpés seront situés sur leur sort. A souligné que ces révélations faites rentrent dans le cadre de la Semaine nationale de lutte contre la corruption clôturée la semaine dernière.
L'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, AJICAD, une organisation de la société civile, propose d'exploiter d'autres approches de prévention dans la lutte contre la corruption. Fousseni Diop, responsable programme gouvernance et engagement civique d'AJICAD, suggère entre autres stratégies la transparence et les recouvrements des avoirs. Il est joint ici par Adamo Amadou Haïdara.
Tout cela doit nous poser des interrogations parce que la période citée 2021-2024, c'est la période aussi où la transition aussi s'est installée. Je pense qu'au-delà de tout, on doit se poser des questions réelles par rapport aux mécanismes mis en place pour réduire les risques. Par exemple, la situation de digitalisation de l'administration peut être une solution pour aussi réduire drastiquement les questions de corruption. C'est aussi la transparence et la redevabilité des gens qui nous gouvernent, les avoirs de certaines personnes, notamment qui sont au sommet de l'État ou qui occupent des postes. Qu'ils doivent être connus de tous, qu'ils puissent faire des déclarations publiques de leurs biens quand ils prennent fonction et à la fin aussi qu'ils puissent le faire. Je pense que ce qui est important, c'est le regroupement des avoirs, que ces procès se tiennent dans la plus grande transparence, qu'on ne se limite pas seulement à poursuivre des gens, à mettre des gens en prison.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X, anciennement Twitter. Autre actualité, le Conseil national de transition CNT a examiné puis adopté le 12 décembre dernier la première partie du projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Le budget d'État est arrêté en recettes à la somme de 2648 milliards 900 millions de francs CFA et en dépenses à 3229 milliards 886 millions de francs CFA. Il ressort un déficit de 580 milliards 986 millions de francs CFA, l'octroi de 80 milliards 750 millions pour les élections et de 17 milliards 297 millions de francs CFA pour la prise en charge des nouveaux organes prévus dans la nouvelle Constitution. Je vous le disais au sommaire, les travaux des États généraux de la santé ont démarré ce mardi 17 décembre 2024 à Bamako. Ces assises de 3 jours visent à faire un diagnostic clair sur la qualité des services de santé et de proposer des réformes adaptées aux besoins actuels du système de santé au Mali. Cette rencontre regroupe les populations, les acteurs de la santé, l'administration publique publics et les partenaires de l'État. Cette phase nationale sonne après celle régionale. Une mobilisation collective pour construire un système de santé plus performant, équitable et juste. Docteur Fatoumata Nafo, présidente de la commission d'organisation des États généraux de la santé, est au micro de notre reporter Moussa Malé Sissoko.
Ces États généraux constituent une immense opportunité pour faire un diagnostic sans complaisance de l'offre de soins et de services, regarder les potentialités existantes afin de prendre les engagements nous permettant de nous projeter vers l'équité. Les défis qui se posent à nous sont nombreux. La problématique des ressources humaines. Pendant que l'OMS requiert 23 à 33 professionnels de santé pour 10 000 habitants, nous en avons au Mali 6 pour 10 000. Nous avons la problématique des infrastructures et des équipements et le coût élevé des soins et services de santé. Ces défis nous obligent à repenser en profondeur nos approches et à trouver des solutions innovantes.
De Bamako, cap sur la cité des 333 saints. Et oui, Tombouctou vibre au rythme de la 9e édition du festival Vivre Ensemble. Une centaine de festivaliers sont d'ores et déjà arrivés ce mardi dans la localité. Ces festivals visent à promouvoir le vivre ensemble et la réconciliation entre les communautés de la région de Tombouctou. Les organisateurs rassurent quant aux dispositions prises pour la sécurité des festivaliers. Reportage de notre envoyé spécial à Tombouctou, Imirana Kilumeiga.
Les festivaliers rencontrés à leur arrivée à l'aéroport de Tombouctou sont visiblement satisfaits de ce rendez-vous culturel de la ville mystérieuse. Certains qui visitent Tombouctou pour la première fois souhaitent découvrir la culture locale.
Je ne suis jamais venue ici, c'est ma première fois. Et leur culture, leur tenue, tout, ça m'a attiré. Les déserts, c'est différent de la ville. Donc je suis très, très contente et ravie d'être là et puis de découvrir des nouvelles choses en fait.
Je suis habituée à venir ici chaque année, vivre ces moments de festival, de cohésion et de paix. On profite du moment.
Je viens pour couvrir en tant que photographe. C'est des photos que nous exposons, par exemple à Bamako, au Maroc, en Angleterre.
Selon les organisateurs, l'objectif principal de ce festival appelé Vivre Ensemble vise à promouvoir la réconciliation à travers la culture. Yahia Moulay Haïdara, coordinateur du festival Vivre Ensemble.
Nous sommes convaincus qu'à travers la culture, nous allons être réconciliés. Réconcilier le Mali, réconcilier l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique en particulier, parce que, qu'on le veuille ou pas, la culture va nous réconcilier. Et c'est le meilleur des thèmes. Et à travers ces thèmes, il y aura d'autres thèmes, la protection de l'enfant, la protection des femmes.
A noter que l'ouverture officielle est prévue pour ce jeudi 19 décembre. Des artistes de renom tels que Oumou Sangaré, Sekouba Bambino de la Guinée, Tchale Arbi et Vie Farkatouré sont annoncés. De Tombouctou, Imrana Kilomega pour Studio Tamani.
Sur un tout autre plan, à présent, prorogation de la date de désactivation des cartes SIM non identifiées au Mali. Les usagers ont désormais jusqu'au 15 avril 2025 pour faire identifier leur puce. L'annonce a été faite le 15 décembre dernier par l'AMRTP, l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes. La décision intervient suite à des concertations avec les parties prenantes ainsi que l'engouement et l'adhésion des populations à ce processus.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Le dossier de la semaine s'intéresse à la pression sociale, notamment le cas de la pression parentale, une forme d'influence exercée par les parents pour conformer un enfant aux attentes de la famille. Cette pression directe ou indirecte, exercée souvent sur des jeunes filles et garçons, peut avoir des conséquences graves sur leur bien-être, selon des traditionalistes. Au Mali, certaines coutumes exigent des enfants en âge de travailler de contribuer aux dépenses de la famille et au bien-être collectif. Dans cette première série de ce dossier, nous vous parlons des manifestations de cette pression parentale et de ses conséquences sur les enfants. C'est une signature de Lali Tangara.
Cette jeune dame qu'on va appeler Ina, âgée d'une vingtaine d'années, témoigne ici de la pression familiale qu'elle subit au quotidien pour apporter sa contribution aux dépenses familiales. Elle affirme qu'elle participe à ces dépenses contre son gré. Entre stress et peur d'attirer la malédiction de ses parents, elle multiplie chaque jour les astuces pour trouver de l'argent et apporter sa contribution.
Chez nous, les dépenses sont réparties entre mes frères et moi. À chaque fin de mois, je suis chargée d'apporter un sac de riz, quelle que soit ma situation financière. Le problème est que ma famille ne se soucie même pas de comment je l'obtiens, ni d'où ça vient. Ce qui importe, c'est que j'amène le sac de riz. À la fin du mois, si mes frères apportent leur part avant moi, on me rappelle à l'ordre et me demande ce que j'attendais encore. Or, on n'a pas les mêmes sources de revenus.
De Ségou à Kayi, en passant par Yoroso, les parents sont divisés sur les conséquences de cette pression subie par les enfants. Pour certains, cette influence parentale est une source de bénédiction et du relèvement de l'estime de soi et de la valeur de l'enfant. Mais pour d'autres, les parents ne doivent pas décharger leurs responsabilités sur leurs enfants en les mettant dans des positions insupportables.
Si ton enfant travaille, il est obligé de venir au secours de sa famille. Mais s'il ne travaille pas, on ne doit pas l'obliger. Sinon, tu le pousseras à poser des actes regrettables.
Aujourd'hui, avec la cherté de la vie, exiger à un enfant de faire ça, ça peut même le mettre mal à l'aise ou l'induire à certaines erreurs.
Si l'enfant a les moyens, c'est une obligation. Si ce n'est pas le cas, sa contribution doit être volontaire.
Pour les traditionalistes, l'aide des enfants à la famille ne doit pas être une obligation ou une source de pression. Pour Fodemoussa Sidibé, le soutien de la famille doit être une volonté personnelle de l'enfant envers ses parents.
C'est par conscience sociale qu'on doit comprendre que nos parents ont investi sur nous et qu'en retour, cet investissement doit obligatoirement leur apporter quelque chose. Ça ne doit pas arriver au niveau de la pression sociale si tu vois que ça arrive au niveau... Parce qu'il y a des enfants qui n'accomplissent pas ce qu'ils doivent faire.
Les psychologues, quant à eux, mettent plutôt l'accent sur l'attitude des enfants qui ne réagissent pas d'eux-mêmes, à moins d'y être contraints. Ils soutiennent que cette pression qui ne dit pas son nom peut avoir des répercussions sur la santé mentale des enfants et peut également les conduire à des pratiques malsaines.
C'était là la première partie de cette série de reportages. La suite est fin dans un autre dossier attendu le jeudi prochain dans nos éditions. Faites-nous parvenir vos plaintes, avis, commentaires ou recommandations en nous appelant au 76 98 56 56. À Studio Tamani, nous attachons une grande importance à vos messages et nous nous engageons à les traiter avec diligence. Après ce journal, vous pourrez suivre les débats du jour produits à Nord du Sahel sur les défis du sport. Dans la région, une présentation de Mariam Meiga. Vous pourrez écouter également ce journal et les magazines qui va suivre en appelant les services Kounafouni au 37 321. C'est gratuit, vous devez seulement avoir 100 francs de crédit dans votre téléphone. À demain, plaise à Dieu. Aujourd'hui, des femmes maliennes s'intéressent à la photographie, un métier longtemps réservé aux hommes dans la société. Ces femmes photographes arrivent à se faire une place malgré les défis professionnels et sociaux. Certaines d'entre elles bénéficient de l'accompagnement de la Maison africaine de la photographie. Le magazine Toutes les femmes nous plonge dans l'univers des femmes photographes. C'est une réalisation de Fatoumata Kodjo avec l'appui de nos correspondants en région.
Mariam Ladri Berti est une jeune dame artiste, photographe malienne et résidente à Bamako. Elle dit avoir embrassé le métier par passion en 2021.
Mon amour pour la photographie est né en 2021 lors d'une formation à Yamaru Photo. Je peux dire que c'est cette initiation qui a éveillé en moi une passion profonde pour la photographie, transformant alors mon appareil photo en un outil d'expression et de connexion.
Tout comme elle, Kani Sissoko a fait la découverte de cet art il y a plus de 10 ans. Elle fait des photos de reportages, de cérémonies et des expositions de photos. Mais Kani dénonce les stéréotypes auxquels les femmes photographes sont parfois soumises. En plus d'être victime de préjugés, elle soutient que les hommes qui dominent en grand nombre le secteur profitent souvent de leur talent.
Ma mère, elle était inquiète. Mes sœurs aussi disaient: mais c'est un travail d'homme, comment tu veux qu'on te marie? Je dis mais bon, j'aime ce travail et on va me marier quand même. Ce qui est difficile, on est souvent manipulé en réalité, en tant que femme. Donc au début, on est des sœurs de tout le monde et tout, mais avec le temps, tu te rends compte que tu n'es qu'un pion et que le gars, il se sert de toi quoi, pour arriver à sa fin en fait.
Au-delà de ses difficultés, elle a su se démarquer en remportant des prix et des mentions spéciales au Mali et à l'extérieur.
La première, c'était le prix de Sinaprom en 2016. Ils ont fait une compétition sur la paix et la cohésion sociale. Et deuxième prix aussi, c'était en 2017 pour un workshop de la Fondation Blanchard en France. Et il y a eu l'interbiennale, voilà, j'ai eu le premier prix aussi. On a fait une exposition au Maroc. Là, j'ai eu mention spéciale
des
jurys.
Des citoyens interrogés à Bamako et Yoroso sur le métier de photographe qui est aujourd'hui pratiqué par les femmes, ils pensent qu'il n'y a pas de saut métier. Certains apprécient l'œuvre des femmes photographes d'autres aussi les encouragent.
Les femmes photographes, ce sont les battantes, ce sont les femmes à encourager.
En tant qu'art, l'art est une empreinte d'une grande sensibilité et d'une profonde réflexion sur la condition humaine.
Les femmes photographes, je pense que c'est sollicité aussi dans la société parce qu'on le dit, il n'y a pas de sous-métier. C'est un très bon métier aussi.
L'Association malienne des femmes photographes du Mali a été créée en 2007 pour valoriser le travail des femmes. Avec 15 à 20 membres, ce regroupement permet de mieux vendre leur savoir-faire. Fatmata Djabaté, présidente de la dite association.
On organise des ateliers photo qui permettent aux gens de voir nos créations. Elles essayent de se battre pour faire leur place et tout. C'est un métier qui n'a pas de sexe. Mais il faut beaucoup de formation pour vraiment leur aider à assurer leur autonomie totale, notamment à maîtriser les logiciels, à maîtriser les appareils photo, à maîtriser comment traiter un sujet artistique ou un sujet documentaire.
La Maison africaine de la photographie favorise un cadre d'échange et d'accompagnement des femmes photographes. C'est du moins ce qu'explique Tidjani Sangaré, directeur général de la Maison africaine de la photographie.
Donc, ils ont un représentant au sein du conseil d'administration de la Maison africaine de la photographie et en tant que tel, les femmes ont toujours la possibilité de pouvoir exprimer les besoins cruciaux qui sont à leur niveau. À chaque fois qu'ils nous soumettent, que ce soit des projets d'exposition, des formations, des sorties et autres, en tout cas, nous travaillons dans la mesure du possible à les accompagner.
La structure ajoute que la formation est le meilleur moyen pour que ces femmes produisent des photos professionnelles de qualité.